Bonsoir, vous êtes sur RFI Roumanie et vous écoutez l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau, pour la quatrième fois, Maud Joseph, directrice de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Un an après le début de l'attaque russe, j'ai décidé d'interviewer Maud Joseph une fois par an pour qu'elle nous raconte comment évolue son quotidien, comment elle vit le conflit. Elle est un peu notre correspondante à Kiev, même si aujourd'hui elle nous parle depuis Paris, elle continue à faire des allers-retours entre Paris et Kiev. Maud Joseph, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être à nouveau et de répondre fidèlement à notre invitation à chaque fois. Alors en juin dernier, en juin 2025, vous nous disiez qu'à Kiev, vous préférez, hein, c'est vous qui m'avez d'ailleurs dit ça, qu'on dise Kiev plutôt que Kiev. Hein.
Oui, c'est ça, parce que Kiev, c'est la version, c'est la traduction de l'ukrainien.
Voilà, voilà. Alors, vous nous disiez donc qu'à Kiev, les habitants s'étaient habitués à vivre dans une instabilité permanente, hein, je vous cite, mais qu'ils continuent à vivre leur vie professionnelle et privée malgré les bombardements russes. Aujourd'hui, pourriez-vous quelque part préciser ce sentiment? Est-ce que, après tout ce temps, et une sorte de résignation s'est-elle installée? Est-ce qu'on croit encore à la paix à Kiev?
Alors, je vais revenir sur votre introduction d'abord, parce que ça fait effectivement 4 fois. J'espère qu'il n'y en aura pas une cinquième, même si, en tout cas, la cinquième, j'espère qu'elle sera dans d'autres circonstances. Alors, je ne parlerai pas de résignation pour les Ukrainiens, je parlerai plutôt de d'une capacité d'adaptation absolument incroyable. Aujourd'hui, les Ukrainiens continuent à vivre, à travailler, à entreprendre aussi, à éduquer leurs enfants malgré la guerre. Et les alertes, en fait, font partie de notre quotidien et certaines nuits sont parfois extrêmement difficiles. Mais personne ne considère, c'est pas parce qu'on a l'habitude des alertes qu'on considère ça normal. Ce qui a changé, c'est peut-être notre rapport au temps. Au début, on pensait vraiment que ça n'allait pas durer. Aujourd'hui, on est obligé de... on voit que ça s'inscrit dans le temps et qu'il faut qu'on soit patient. Donc, voilà, donc oui, l'espoir de paix, il existe toujours, évidemment, mais c'est plutôt un espoir qui est plus mature et moins naïf qu'au départ. Voilà, voilà. On a une vraie fatigue aujourd'hui, ce qui n'empêche pas qu'une immense dignité des Ukrainiens, mais... La guerre commence à durer.
Oui, oui. Est-ce que, quand on parle d'espoir de paix, est-ce que c'est un espoir de paix négociée ou un espoir encore de victoire?
On pense toujours à la victoire, évidemment.
Alors, vous faites donc, comme je disais en introduction, des allers-retours entre Paris et Kiev. D'ailleurs, c'est, vous êtes entre ces deux villes. Comment exactement? 2 semaines à Paris, 2 semaines à Kiev, comment ça se passe?
C'est tous les jours, c'est depuis 4 ans la même chose. Tout dépend. Je suis à Paris principalement parce que j'ai 3 enfants. À l'époque, au début de l'invasion à grande échelle, mes enfants étaient petites. Donc, nous avons fait le choix en famille de les faire vivre à Paris. Mon rythme est en fonction de leur rythme. J'essaie d'être tous les mois à Kiev pour au moins 1 semaine, 10 jours. Après, dès que je le peux, parce qu'il y a des vacances scolaires, j'y reste 2 semaines, 3, 4, 1 mois. Tout dépend de l'agenda.
Alors précisément, ces deux vies entre Paris et Kiev, après 4 ans, qu'est-ce que ça a généré en vous? J'imagine que si vous étiez resté tout le temps à Kiev, ou si vous aviez une vie seulement parisienne, ce serait différent. Mais qu'est-ce que ça a généré, cette vie parallèle?
C'est toujours, C'est toujours cette impression de vivre effectivement deux vies parallèles, une vie à Paris qui est calme, prévisible en fait, et une vie à Kif où on sait que tout peut basculer. Voilà, ce qui est le plus difficile, c'est ce décalage émotionnel. J'en parlais récemment avec un ami qui me disait, qui venait de revenir de Suisse et qui me disait, voilà, il me faut un temps d'adaptation et c'est ça, en fait, il me faut un temps d'adaptation dans un sens et dans l'autre, mais pas un temps d'adaptation à la guerre, un temps d'adaptation dans l'émotion, parce que, ben, voilà, il faut se réadapter à chaque vie. À Paris, moi ou à Kif, et puis voilà, et puis on a l'habitude de faire ces allers-retours qui durent très longtemps parce qu'aujourd'hui prendre le train est encore plus compliqué qu'avant puisque dès qu'il y a une alerte, on est invité à sortir du train pendant toute la durée de l'alerte. Donc les trajets qui étaient déjà très longs sont encore plus longs parfois.
Vous mettez combien de temps?
Avant, j'étais sur à peu près entre 15 et 17 heures. Aujourd'hui, on est au minimum 20 heures, 24 heures.
D'accord.
Voilà.
Et vous passez par où?
Je passe par la Pologne en général, parfois Varsovie, puis Chełm, puis Kif, et d'autres fois par Varsovie, j'échauffe en avion, taxi jusqu'à la frontière polonaise. Je passe à pied et j'ai un autre taxi qui m'emmène à la gare de Lviv et de Lviv à Kif en train. Mmh. Voilà.
Si vous le voulez bien, j'aimerais revenir sur l'état d'esprit des Ukrainiens, des pertes civiles et militaires. Évidemment, sont toujours plus nombreuses. Est-ce que vous sentez que le soutien pour le président Zelensky est toujours aussi fort ou s'il diminue?
Aujourd'hui, la question ne se pose pas. On est en période de loi martiale. De toute manière, on doit travailler avec le président Zelensky. Jusqu'à présent... Bon, quand vous regardez, il n'est pas parti au début, il ne part toujours pas, il se bat toujours pour son pays. Voilà, la question aujourd'hui ne se pose pas et tout le monde est aligné. On est en période de guerre, il y aura le temps de la discussion après, et de la réflexion. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont toujours déterminés, ça je peux vous le dire. Même si ça paraît moins spectaculaire depuis l'Europe de l'Ouest, parce qu'on en entend beaucoup moins parler, mais la détermination est toujours profonde et chaque Ukrainien sait ce que la guerre coûte humainement. Chaque Ukrainien connaît quelqu'un sur le front, a perdu quelqu'un, blessé ou même qui est disparu. Donc voilà, aujourd'hui, ils savent ce que c'est humainement une guerre et ce que ça leur coûte. Donc, mais malgré ça, le pays fonctionne. Il y a toujours ces frappes qui tuent, mais il y a toujours aussi cette capacité collective à avancer. Mmh.
Voilà. Alors, j'imagine, mais vous allez nous le dire, que ça a dû être un bol d'air pour les Ukrainiens de savoir que l'Union européenne allait pouvoir débloquer. Hein, ça, c'était donc fin mars, suite à l'élection du nouveau Premier ministre hongrois, allait pouvoir débloquer 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, des fonds qui étaient précisément bloqués par l'ancien Premier ministre hongrois. Ça a été perçu comment, j'imagine, évidemment positivement en Ukraine?
C'était un immense soulagement, ça a été accueilli avec beaucoup de soulagement. Il y a effectivement l'aspect financier qui est essentiel, mais c'est le fait, il y a aussi une dimension, on va dire, psychologique, politique, savoir que les pays européens, que les Ukrainiens, pour les Ukrainiens, savoir que les pays européens continuent à les soutenir, c'est fondamental. Ça permet ça leur permet de résister, d'être encore plus résilients. Et vraiment, les Ukrainiens sont attentifs à tous ces signaux des partenaires occidentaux.
Par contre, le retrait des États-Unis, j'imagine qu'il est, moins, moins bien vu quel sentiment ont-ils aujourd'hui vis-à-vis de Washington et notamment de son président des États-Unis ?
Aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Aujourd'hui, je ne sais pas si les mois d'hiver ont été vraiment extrêmement durs, on va dire, sans eau, sans électricité, sans chauffage, il faisait moins 20 dehors. Donc, se préoccuper. La préoccupation, elle est plutôt vers l'essentiel, moins sur les discours politiques, surtout qu'on sait qu'un jour c'est bleu, oui, un change. Jour c'est rouge, ça change tous les jours. Donc on essaie de pas trop de continuer notre vie et de pas trop se préoccuper de tout ça.
Alors les images du métro à Kiev rempli de tentes et donc aménagé pour recevoir, accueillir les Ukrainiens et précisément pour se prévenir des bombardements. Est-ce que c'est ces images-là qu'on n'a pas trop vues récemment, je crois, est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce que le métro a été aménagé aussi en fonction de ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est devenu carrément une espèce de petit hôtel, si on peut dire, pour accueillir les Ukrainiens?
C'est pas venu. Alors aujourd'hui, ils servent toujours, puisque la nuit dernière que l'on vient de passer a été extrêmement compliqué. Donc, ce ne sont pas des images que vous avez vues avant et qui n'existent plus. C'est toujours une réalité pour les Ukrainiens. Je pense qu'à Kiev, ça reste un refuge. Dans d'autres villes comme Kharkiv, les écoles ont été installées à l'intérieur des stations de métro pour pouvoir continuer à enseigner. Il y a des universités, il y a des jardins d'enfants et des écoles également. Et des écoles qui sont dans les stations de métro.
Et à Kiev également, ou ce que vous me dites, c'est que c'est plutôt dans d'autres villes comme Kharkiv où il y a des métros complètement aménagés avec des activités qui existaient en surface et maintenant qui existent dans le métro. À Kiev, c'est moins le cas.
Oui, c'est ça.
Alors, si vous le voulez bien, maintenant, moi, Joseph, j'aimerais qu'on parle quand même de la Chambre de commerce que vous dirigez et de leurs membres. Je reviens, encore une fois, parce que je trouve que c'est intéressant quand même de faire le point après ce que vous nous disiez l'année dernière. Donc, vous nous disiez l'année dernière que la présence française en Ukraine était très diverse, comme en Roumanie, d'ailleurs. La présence française économique, et elle concerne donc beaucoup de secteurs. Comment réagissent ces investissements précisément en ce moment? Est-ce qu'ils sont plutôt prudents ou prennent-ils des risques?
On va dire que déjà d'être en Ukraine, c'est risqué. Mais bon, les entreprises restent évidemment prudentes. Même si elles restent engagées, elles ont étonnamment appris à s'habituer à cette stabilité dans le chaos. Je ne sais pas comment vraiment expliquer ça. Les entreprises ont appris à travailler dans l'urgence, dans l'incertitude, à se remobiliser rapidement. Aujourd'hui, on se demande comment on fera plus tard, après-guerre. C'est ça, on commence à se projeter, à se dire, mais comment on travaillera, comment repasser de cet état d'urgence de travail dans l'urgence et dans l'instabilité à une nouvelle réalité stable avec de nouvelles règles. Donc ça, aujourd'hui, ça fait partie des choses en discussion dans les entreprises, par exemple. Et bon, vous le savez, je vous l'ai dit, chaque année, les groupes français ont maintenu dans leurs investissements en Ukraine, sont toujours là.
Mais il y en a qui sont partis, j'imagine, non?
Pas vraiment.
D'accord.
Pas vraiment. Il y en a qui ont quitté la chambre parce que, bon, bah, par exemple, je prends Air France, évidemment, il n'y a plus de vol. Je ne sais pas parce que ça, tout le monde ne le sait pas encore, mais il n'y a plus de vol qui atterrissent en Ukraine. Donc, bon, on peut comprendre, mais ils restent très engagés, toujours partenaires de la chambre. Voilà. J'ai pas un grand nom, une grande entreprise française qui n'a pas quitté l'Ukraine. Ceux qui ont quitté l'Ukraine, ce sont plutôt, on va dire, plutôt les entrepreneurs. Mais au début de la guerre, les restaurants, boulangeries, voilà. Mais sinon, tous les grands noms sont là. Ouais. Il y en a de plus en plus. Sur les trois derniers mois, on a gagné 3 membres supplémentaires chaque mois. Donc, on a 9 membres supplémentaires depuis qu'on a eu en février, mars et avril.
Plutôt des grandes sociétés ou des PME?
Alors, c'est les deux, parce que la reconstruction a commencé. Depuis le début de la guerre, on est toujours en période. On reconstruit au fur et à mesure. Il y a de grands chantiers. Les entreprises qui sont les plus agiles, ce sont les PME, les ETI. C'est elles qui y arrivent. Donc, on a effectivement de grandes entreprises, mais on a aussi des PME qui commencent à arriver en Ukraine, et ça nous rend très contents de voir que. On a de nouveaux membres.
Vous avez combien de membres en tout?
Alors, on en avait 120 et donc, au début de l'année, on devrait être à 130 là maintenant. Et puis, on espère retrouver rapidement, parce qu'avant-guerre, on était quand même à 150.
D'accord. Et je me rappelle que vous me disiez que vous teniez des réceptions ou des conférences dans une sorte de bunker, c'est ça que vous avez à la chambre?
Alors, on n'a pas de bunker à la chambre, on cherchait, alors ça c'était à un moment donné, on cherchait à chaque fois des endroits sécurisés pour faire nos réunions, donc on les faisait en sous-sol, dans des parkings, souvent dans les parkings des hôtels, on pouvait organiser des soirées, des réunions.
Dans les parkings des hôtels? Mais ils étaient chauffés?
Non, mais bon.
D'accord. C'est quand même assez étonnant ce que vous nous dites, c'est-à-dire que tous ces endroits souterrains, en fait, ont été réaménagés, un métro, parking. Ça, c'est quand même assez étonnant.
Oui.
Oui, donc on s'est habitué à faire une conférence, organiser une réunion dans le parking d'un hôtel, c'est normal, quoi.
C'est normal pour tout le monde. Alors après, aujourd'hui, on a un peu assoupli. L'important, c'est qu'il y ait un abri dans le lieu, puisque dès qu'il y a des alertes, on se déplace vers l'abri. Mais aujourd'hui, on commence à réintégrer les lieux habituels à condition qu'il y ait un abri à proximité.
Mais vous avez toujours le siège administratif de la chambre est toujours physique. Vous avez un lieu à Kiev?
Oui, on a toujours notre bureau à Kiev.
Un bureau, c'est
en face de l'école française.
D'accord, oui, c'est dans un immeuble.
Oui, c'est un immeuble. Vous savez, on est une petite équipe, c'est pas comme en Roumanie.
Ouais.
On est une petite équipe dans un bureau. En ce moment, on loue notre salle de réunion à une entreprise qui est située proche du front et qui a déplacé une partie de ses salariés à Kiev. Voilà. Ouais. Donc, c'est notre vie d'aujourd'hui.
Et il y a des alertes en moyenne par jour, il y en a combien?
Bon, ça se... C'est pas tout à fait comme ça. Il peut y avoir des journées avec une alerte et des journées où ça ne s'arrête pas. Il peut y avoir plusieurs jours plus tranquilles, entre guillemets, et des jours noirs, complètement.
Et là, quand il y a l'alerte, vous sortez de l'appartement et vous allez vous réfugier?
Oui, c'est ça.
D'accord. Dans un bunker qui est à côté?
On appelle ça des abris, mais oui.
Abris, pardon, excusez-moi, du bunker, c'est oui. Pardon, excusez-moi, oui, plutôt abris, oui, d'accord. En préparant cet entretien, vous m'avez aussi informé, je ne savais pas, que vous alliez vous porter candidate aux élections consulaire. Alors, oui. Comment, expliquez-nous, et pourquoi vous avez pris cette décision?
Ouais, ça fait plus de 10 ans, ça fait 13 ans que je vis en Ukraine et que j'y travaille. Et avec Gérard de la Salle, qui est mon suppléant, nous sommes toujours engagés auprès de la communauté française en Ukraine. Donc, j'étais présidente de Kiev Accueil. Il a été 6 ans au bord de la Chambre de commerce franco-ukrainienne. C'est un entrepreneur. Il se déplace dans toutes les régions d'Ukraine. Je suis à la Chambre, j'organise des événements. J'aime beaucoup le côté communauté, rassemblement, et permettre aux gens de se rencontrer. Et donc c'était une évidence, on se connaît depuis 10 ans tous les deux, c'est pas une association de circonstances, et on s'est dit qu'on avait envie tous les deux d'avoir une représentation crédible des Français d'Ukraine, et parce que personnellement je me retrouve pas aujourd'hui dans la représentation actuelle, et j'ai envie de faire bouger les lignes, changer un petit peu tout ça. Voilà. Donc,
vous représentez. Pardon, excusez-moi. Vous présentez pour quelle zone?
Kiev, Ukraine, pardon. Pour l'Ukraine en entier. Oui. Et depuis quelques semaines, nous faisons un tour d'Ukraine avec Gérard pour rencontrer les Français d'Ukraine et pour montrer qu'on sera là, proche. Et voilà. Et pour nous, aider, c'est pas nouveau. On a toujours été une porte d'entrée tous les deux pour aider la communauté française, quelqu'un qui cherche un travail, quelqu'un qui voudrait entrer à l'école française. Donc, ce sont des choses qu'on faisait naturellement un peu dans le...
Candidature conjointe ?
Voilà, en fait, normalement, je suis candidate, c'est mon suppléant, on a décidé de le faire ensemble. Voilà, donc. Et on veut rapprocher tous les Français, qu'ils soient à Lviv, à Odessa, à Kiev, à Kharkiv, à Dnipro. On veut recréer un lien, animer cette communauté. Et puis, je pense qu'avec mon expérience à la Chambre, avec mes connexions, on a envie aussi que les écoles françaises, parce qu'il y en a plusieurs en Ukraine, puissent bénéficier de tout ça, qu'on fasse créer du lien entre les entreprises et les écoles. On aimerait bien faire des forums des métiers. C'est pas parce qu'il y a la guerre que tout doit s'arrêter. Et puis c'est un mandat de 6 ans, on espère qu'on verra cette fin de guerre, qu'on pourra accueillir de nouveaux Français. Et voilà, donc on a envie, d'être bien représentés, donc on s'est dit qu'on allait se représenter tous les deux.
Oui, oui. Où sont-ils bien présents les Français en Ukraine, à part Kiev?
Ils sont surtout à Kiev, une partie à Odessa. Il y a à peu près une soixantaine de Français à Odessa.
Ah oui, c'est pas énorme. Ouais.
Oui, alors les Français d'Ukraine, c'est 500 personnes. Hein.
500 personnes. Et avant la guerre?
C'était à peu près officiellement à peu près la même chose. Voilà.
Que 500? Ah oui. Ah, je pensais qu'il
y avait. C'est une toute petite communauté.
Ah oui, c'est effectivement tout petit.
Voilà.
Et par rapport à la Roumanie, où, alors je ne veux pas me lancer dans les chiffres, mais je crois qu'il y a plusieurs milliers, ça depuis longtemps, de Français établis en Roumanie. Je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de Français en Ukraine. Est-ce que c'est un pays qui est... Où le français est enseigné dans les écoles publiques ukrainiennes, en deuxième langue?
Il y a même des écoles françaises ukrainiennes.
Où tout est en français?
Non, pas tout est en français.
Oui. Depuis longtemps.
Depuis toujours, oui.
Depuis toujours. Ouais. Donc, peut dire qu'il y a une vraie francophonie historique, disons, en Ukraine.
Il y a une francophonie historique, même si aujourd'hui les jeunes choisissent l'anglais. Ouais. Voilà. Comme partout, je pense.
D'accord. D'accord. Écoutez, moi, Joseph, j'ai été vraiment ravi d'avoir votre témoignage une nouvelle fois. On vous souhaite de bonnes chances pour cette candidature. Vous allez repartir en voyage. Encore, vous avez déjà fait le tour de l'Ukraine et là maintenant...
Lviv le 19 mai et puis on va faire une rencontre online pour ceux de Zaporogie, de Kharkiv et des autres régions d'Ukraine.
D'accord. Voilà. L'année prochaine, espérons, de toute façon, moi je vais vous interviewer à nouveau l'année prochaine, en espérant évidemment qu'il n'y aura plus la guerre, mais pour que vous nous racontiez votre vie en tant que conseiller des Français à l'étranger, c'est ça.
Et on parlera de la vie après-guerre et on se reconstruit, reconstruit le pays. Voilà.
C'est ça, vous conseillez des Français à l'étranger, c'est ça.
Oui, c'est ça.
D'accord. Maud Joseph, merci infiniment et faites attention à vous. Je sais que vous êtes prudente, évidemment. Vous avez suffisamment d'expérience maintenant pour savoir où passer et où ne pas passer quand c'est dangereux. Bonne chance pour ces élections et à bientôt.
Merci à vous, Laurent, et à bientôt.
À bientôt, au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir depuis Paris Kif. Et nous vous souhaitons un agréable week-end plat côte. Au revoir.